Bonjour à tous et bienvenue pour ce second numéro de C'est dans la boîte. Après le succès interplanétaire du premier numéro, nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler de trois films de l'actualité ciné. Tout d'abord le diptyque d'Edgar Wright's Heimat, le blockbuster dans l'espace d'Alfonso Cuarón, Gravity, et enfin la sortie d'un film du Festival de Cannes, pas n'importe lequel, le dernier en date des frères Coen, Llewyn Davis. Et puis en fin d'émission, on fera à nouveau quelques recommandations de films qu'on a aimés ou dont on attend la sortie avec impatience.
Dans la boîte.
On commence avec le très beau IMAT d'Edgar Wright, un film presque exclusivement en noir et blanc et en deux parties, Chronique d'un rêve et L'Exode.
Oui, donc je vais dire deux mots sur le réalisateur pour situer un peu la chose. Donc c'est un réalisateur allemand qui est né en 1932 et qui est connu surtout pour sa trilogie Heimat. Donc Heimat, c'est un terme un peu difficile à traduire. C'est le lieu où on est chez soi, en fait, la ville d'où on vient, la région d'où on vient. Une trilogie donc qu'il a occupée pendant 20 ans, de 1984 à 2004, et dans laquelle il suit en fait les destins d'une famille qui habite dans un petit village fictif qui s'appelle Schabach, dans une région massif montagneux au sud-ouest de l'Allemagne, le Hunsrück. Et donc, il suit leur destin à travers tout le XXe siècle. Il balaye l'histoire du XXe siècle, de juste après la Première Guerre mondiale, bien après la chute du mur, jusqu'en 2000. C'est un panorama, en fait, de l'histoire allemande. Et ce qui a contribué au succès de cette trilogie, c'est, je pense, cette idée de la grande histoire vue à travers la petite. C'est-à-dire qu'on a toute l'histoire de l'Allemagne, les guerres mondiales, la réunification, la division, etc., à travers les destin individuel des personnages, les fils qui partent en guerre, qui reviennent, qui se marient, bon, les mariages, les séparations. Et donc maintenant, dans ce nouveau film qui s'appelle en français Chronique d'un rêve, en fait en allemand Chronique einer Sehnsucht, donc Sehnsucht encore une fois, bon, c'est un terme un peu peut-être qu'on peut pas traduire tel quel, oui, rêve, pourquoi pas nostalgie aussi. Et puis cette nostalgie, c'est la nostalgie du départ au loin en fait, de l'exil, en l'occurrence au Brésil, donc dans une période historique très difficile pour l'Allemagne, puisqu'on est dans les années 1840, donc avant la révolution de 1848, la révolution échouée. Et donc on suit dans ce film le personnage principal qui est Jakob Zeman.
On peut dire l'exil, ce sera ensuite un thème qui sera repris dans le deuxième,
oui, c'est
partie
ça.
Du diptyque.
Alors bon, c'est ça. En Allemagne, c'est un film qui est montré en une partie, qui rend pas forcément les choses plus faciles pour le spectateur, puisque ça fait 240 minutes en tout. En France, c'est en deux parties, effectivement. Bon, le thème de l'exil, du départ, je sais pas comment vous l'avez senti. Il est présent un peu tout du long.
C'est surtout, en fait, il est centré quand même sur le personnage principal, Jakob, qui est un peu le Julien Sorel local, finalement, moins ambitieux. Que Julien Sorel, peut-être, il a quand même des motivations plus pures, puisque c'est surtout voilà, de sortir de ce petit milieu plongé dans la misère dont il vient, où il a quand même très peu d'avenir, et qui rêve donc de l'Amérique du Sud, en l'occurrence du Brésil.
Oui, c'est ça. C'est un jeune homme très sensible, très rêveur, extrêmement intelligent, qui a appris à lire, ou qui s'est lui-même peut-être appris à lire, qui a appris les langues étrangères, qui a appris les langues des tribus originaires d'Amérique du Sud.
D'ailleurs, il joue pas mal à l'Indien. C'est son surnom dans le village.
Voilà, c'est ça, le petit Indien de service. Et donc, dès le départ, on a un plan où on voit en fait des paysans partir sur leur chariot, une famille de paysans qui n'en peut plus. Bon, restauration politique, crise.
Les trois fils, même, si je me souviens bien, on voit les parents qui sont en pleurs devant tous leurs enfants qui partent.
Voilà, la séparation douloureuse, donc crise économique, famine, etc. On va avoir plus tard dans le film les petits-enfants qui meurent, et donc on voit dès le début les paysans partir, et Jakob qui pousse une espèce de cri, nostalgique, libérateur, on sait pas trop, mais vers un ailleurs, en fait, qui est cette terre de l'étrope, dit trope, comme ils disent, donc la terre des tropiques, en fait, qui passe pour un paradis. On verra à la fin du film que c'est pas un paradis, autant qu'on pouvait l'espérer. Mais le thème est là, vraiment de façon comme un leitmotiv.
Mais ce qui est justement intéressant, me semble-t-il, c'est que le personnage principal, dont on a l'impression au départ qu'il est fortement attiré, évidemment, par les tropes, donc l'Amérique latine en l'occurrence, et qu'il va peut-être partir, comme beaucoup de ses camarades ou amis villageois ou d'ailleurs, comme son frère également, ans plus tard, ainsi que la femme qu'il aime, et bien finalement, cet homme, Jacob, ne part pas. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la deuxième partie, intitulée donc l'Exode, et pas simplement l'Exil, donc la référence est aussi biblique, et bien Jacob donc, ne part pas, renonce à partir, également porté par des valeurs plus fortes que le désir d'ailleurs, qui sont tout simplement la loyauté et la fidélité à la famille, des valeurs beaucoup plus anciennes que l'attirance vers l'étranger, puisque ce sont des valeurs qui sont répétées par un certain nombre de personnages tout au long des films.
Oui, parce que tout au long du film, on a la chronique à la fois familiale, à la fois du village voilà. aussi.
Et lui-même, dont on le sent si attiré par l'Amérique latine, renonce à partir, justement par fidélité envers sa famille. Mais en même temps, dans ce deuxième film, donc intitulé L'Exode, on le sent quand même en exil un petit peu de lui-même et de sa famille, justement, puisque c'est dans ce deuxième film, eh bien, il vit ailleurs en toute une partie, c'est-à-dire qu'il a été arrêté par les forces publiques pour s'être rebellé. Il est donc en exil de pas tant de lui-même, puisqu'il y trouve un certain compte, hein, il défend ce en quoi il croit, la liberté, mais il est en exil donc de sa famille et de son village, puisque après la prison, il va se mettre à vivre chez un ami dans un autre village. Et donc finalement, ce que ce deuxième volet ou cette deuxième partie nous apprend, c'est que l'exode, ce n'est pas forcément l'émigration, aller ailleurs, en l'occurrence l'Amérique latine, tant convoitée à l'époque, mais c'est également partir, quitter sa famille. Donc il y a tout le thème de la séparation, apprendre à vivre pour soi-même, ailleurs que chez soi, mais pas forcément si loin, puisque ce que nous dit ce film Heimat, qui est donc le Heimat signifie en un sens un peu la patrie, le foyer ou la terre natale, c'est que ce n'est pas simplement la famille donc, que certains quittent, mais également une terre et un pays que l'on veut défendre via la défense de la liberté, la défense d'un certain nombre d'idéaux, en l'occurrence démocratiques.
C'est aussi un thème qui est présent, pas seulement dans la seconde partie, hein, même dans la première déjà, avec le personnage notamment de la sœur,
tout à fait.
Qui est un très beau personnage,
tout à fait.
Qui a été renié par le père pour avoir épousé un catholique alors toute la famille est protestante, et chez qui Jacob va se réfugier quelques instants après avoir lui-même été chassé par son père, puisque c'est vraiment là pour le coup le même thème, toujours du rêveur un peu qui lit, qui ne participe pas trop aux travaux de l'atelier de son père qui est forgeron.
Tout à fait, oui, il y a cette forme de rivalité fondamentale entre les deux frères, dont on se demande à un moment s'ils vont pas être Abel et Caïn, finalement.
Oui, ne serait-ce que dans sa famille, et puis aussi par rapport à la jeune fille qu'il convoite.
Et par rapport à la même femme qu'ils aiment, en fait, que lui aime et que l'autre épouse, parce que c'est difficile de savoir si le frère aîné aime vraiment cette femme. En tout cas, il la chérit et la respecte, ça c'est très clair. Il y a aussi une fidélité à des valeurs qui sont, on engrosse une femme, on l'épouse, alors que l'autre qui va pas l'épouser finalement, mais qu'il aime, est peut-être plus moderne en ce sens, sachant qu'ils commettent aussi un adultère tous les deux. Mais ce que tu mentionnes, Aliette, et qui est très intéressant, c'est en effet le fait que je disais, donc il y a Abel et Caïn, les deux frères, mais qu'il y a une sœur également, c'est-à-dire qu'ils sont trois enfants, dont une sœur dont je pense qu'elle est l'aînée d'ailleurs.
En tout cas, Jacob est le plus jeune.
Elle est la première, en effet, à faillir au modèle familial et également culturel en quittant donc, la famille et surtout village, en épousant un homme qu'elle aime, puisqu'elle le dit ostensiblement,
oui,
c'est pas simplement parce
qu'elle
elle a été enceinte, et également qui est d'une autre religion, ce qui à l'époque ne se fait pas. Et je trouvais ça intéressant comme thème.
Oui, c'est ça, il y a l'histoire aussi de, comment dire, les deux générations, en fait. Chacun des trois enfants va suivre quelque part son propre chemin, hein, les enfants qui sont racinés encore dans la Heimat, dans la terre natale, et puis chez les enfants, il y en a un qui part, il y en a une qui va épouser un français, je crois, hein, donc
oui,
il me semble, bon, français catholique, et le troisième qui rêve d'aller ailleurs, qui est très intelligent, qui a des intérêts scientifiques aussi, hein, à la fin, il y a le personnage de Humboldt qui apparaît, et puis qui veut en fait venir le prendre, hein, le chercher à Berlin, et il n'ose pas, en fait. Tu disais tout à l'heure, la fidélité, oui, c'est vrai, mais on a l'impression qu'il y a aussi une certaines peurs, en fait, hein, de quitter en fait ce cocon protecteur.
Oui, bien sûr.
Surtout, c'est des terres lointaines, par exemple, l'Amérique du Sud, qui font rêver vraiment, mais qui sont quand même assez mystérieuses. Donc, c'est à la fois une attirance et peut-être aussi quelque chose d'assez difficile pour vraiment passer le pas.
Voilà, donc peut-être juste si on peut dire deux mots sur le côté un peu plus esthétique. Donc on a dit
Cette utilisation de la couleur qui est très partielle, avec seulement quelques scènes très rares, et à chaque fois seulement un objet qui est un peu illuminé. Donc je sais pas, c'est une symbolique qui peut être un peu lourde, cette idée de la vie très dure en noir et blanc qui est illuminée par quelques rares moments.
Oui.
Mais finalement, moi j'ai trouvé ça assez anecdotique. C'est un joli effet comme ça de temps en temps, mais ça a pas une grande importance dans le film non plus. Je sais pas ce que vous en avez pensé.
Oui, moi aussi, je me suis demandé vraiment quel était l'intérêt de mettre en valeur ces objets via la couleur, sachant que les couleurs aussi sont diverses, puisque nous avons affaire à du rouge, à de l'orangé, à du vert,
du bleu. Quand il y a les fleurs dans les champs.
Voilà, donc pourquoi ces couleurs plus que d'autres, et pourquoi finalement ces objets, sinon qu'ils incarnent peut-être en effet l'espoir ou le renouveau.
Il y a certains moments où c'est assez clair, quand on voit par exemple dans la première partie, il y a le drapeau, qui sera plus tard le drapeau de l'Allemagne démocratique fédérale, il est en couleur. Hein. Donc là, il y a l'idée de l'espoir, des érables rouges, des cerises, etc. On peut voir même le bleu dans les fleurs, dans les champs, et l'idée de quelque chose de peut-être plus gai, enfin une projection dans quelque chose qui est moins horrible que quand même ce film qui est très centré sur les maladies, hein, sur les enfants qui meurent, sur la séparation, les adieux, etc.
Mais c'est pas non plus vraiment tragique, ceci dit, hein. C'est quand même assez contemplatif.
Ça se finit bien, il y a quand même, ils sont arrivés au Brésil, etc., ça n'a pas été facile, mais enfin il y a de l'espoir à la fin, mais la deuxième partie est quand même très très lourde.
Hein. Oui, il y a un changement de ton.
Les longues séquences.
En tout cas, la première partie, surtout quand on suit Jacob vraiment dans ses rêveries un peu quotidiennes.
Mais je dirais que la première partie est plutôt idéaliste, tandis que la deuxième partie est plus réaliste, en un sens, sur les thèmes abordés, ce qu'on disait par rapport aux enfants qui meurent, aux maladies. Bon, après, c'est aussi le caractère chronologique qui veut ça, puisque évidemment, la deuxième partie, c'est le temps avance, et donc là, voilà, la mère meurt, elle devient malade, enfin, elle est très malade, etc. Les enfants partent, donc je pense que c'est le caractère chronologique en effet de l'histoire qui veut ça, mais après, de là à dire que c'est absolument dramatique ou noir, justement, ça me paraît moins noir que ne le veut le noir et blanc.
Voilà. Enfin voilà, bah, du coup je pense que c'est quand même un film qu'on conseillerait.
Ah oui,
qui
oui,
vaut
oui.
Le coup. En plus,
la musique est très belle, j'ai beaucoup aimé le thème
à la fin, la pour les amateurs de cinéma allemand, il y a une rencontre entre deux grands réalisateurs. Bah, il y a d'une part Edgar Wright qui fait une apparition dans son propre film, et il y a Werner Herzog qui vient aussi et qui joue Humboldt,
en plus.
Et donc ça lui va vraiment très très bien, ce rôle, je trouve. Il débarque là en monsieur élégant, en costard, comment on appelle ça, avec un chapeau haute forme, etc., dans ce petit village. Et donc c'est assez émouvant, en fait, je trouve, de voir cette rencontre entre ces deux grands réalisateurs.
Bon, alors on passe à un film vraiment très différent, que je suis la seule à ne pas avoir vu, car je trouvais la bande-annonce vraiment terrifiante. Donc qu'est-ce que vous pourriez dire pour me convaincre peut-être d'aller voir Gravity?
Je sais pas, moi je pense que ce qui m'a le plus plu, en fait, le plaisir que j'ai vraiment tiré du film était physique. Enfin, c'était vraiment, c'est du cinéma immersif, et je trouvais que ça donnait vraiment au spectateur l'impression de perdre ses repères comme le personnage, de ressentir le vertige, la chute, d'être vraiment catapulté dans toutes les dimensions un peu de l'espace. Et la 3D, en plus, enfin, je conseille à tout le monde d'aller voir en 3D, parce que ça ajoute encore à cet effet d'immersion. Moi, je trouvais que c'était vraiment peut-être l'aspect le plus réussi du film, parce qu'après, le scénario est assez mince.
Oui, finalement, c'est beaucoup des effets techniques,
énormément d'effets spéciaux
dont on a parlé.
Je veux dire, c'est le premier niveau du film, c'est ça, oui, c'est une catastrophe spatiale, quoi, comme on en a vu d'autres déjà beaucoup dans le cinéma. Enfin, quand j'étais petit, j'avais vu Apollo 13, hein, c'est un peu ce genre d'image qu'on voit, enfin, où tout fout le camp, quoi, en fait.
On est dans une logique d'emballement, en fait, voilà. C'est vraiment l'enchaînement des catastrophes, et puis c'est ça qui relance à chaque fois un petit peu l'intrigue, une nouvelle catastrophe à surmonter par le personnage pour finalement survivre et regagner la Terre, puisque c'est l'objectif final. Mais je trouve que par rapport à d'autres films de ce genre, justement hollywoodiens, survival, tout ça, je trouvais que c'était agréable que le découpage soit pas tellement frénétique, en fait, parce que je trouve que dans ce genre de film, on a souvent un enchaînement hyper rapide d'action. Un découpage vraiment, vraiment très très rapide, l'espace éclaté, voire l'intrigue morcelée, plein d'intrigues parallèles, des choses comme ça. Et là, je trouvais qu'on était vraiment dans la continuité, on suit les personnages, leurs mouvements, leurs déplacements.
Et puis des personnages, il n'y en a pas beaucoup quand même.
C'est ce que j'allais dire, en fait, tu suis un personnage.
Oui, c'est ça. Puisqu'on est rapidement.
C'est un itinéraire personnel.
C'est un peu les dix petits nègres. Au début, il y en a trois.
Ah oui, c'est ça. Parce qu'au début, ils sont trois. Enfin, on a deux personnages physiques et une voix. Et ensuite, c'est silence radio. On n'a plus la personne avec qui ils sont en contact au niveau de la, centrale à laquelle ils sont reliés.
Trois personnages physiques.
Trois, hein. Il y a le russe.
Ah oui, c'est vrai. Le russe.
Le russe,
il a même
qui
pas
se
de
fait
nom.
Expédier voilà. rapidement.
J'avais déjà oublié.
On retrouve plus tard le corps,
la tête trouée.
C'est ça, parce qu'il y a une pluie de débris spatiaux, en fait, qui arrive et qui va détruire.
En fait, on ne sait même pas exactement ce qui se passe. Je veux dire, ce n'est pas le propos du film de nous dire, voilà, c'est il pas s'est passé telle principal. Chose et il y a des débris ou des météores. Mm-hmm. Et,
oui, parce que finalement, j'avais vu un article qui en parlait et il y a quand même eu pas mal de catastrophes vraiment réelles dans l'espace qui ont eu lieu.
Oui, c'est avec les déchets qui sont... Oui, bien sûr.
C'est ouais. pas un film qui donne envie d'aller dans l'espace, ça, c'est certain. Mais après, voilà, ce que je disais, c'est que film catastrophe, oui, mais aussi quand même beaucoup film psychologique. Oui, parce
complètement.
Parce
qu'on
est axé sur cette femme, en fait. Oui, hein, Sandra Bullock, qui va se retrouver toute seule dans l'espace et qui, dans la mission, en quelque sorte, c'est de retourner sur Terre, en fait, de survivre.
Oui, donc avec une grande tension. Enfin, même dans le générique, déjà, ça, pour les nerfs, c'est pas très reposant.
Et alors, en fait, ce qui est très intéressant, c'est, voilà, sa mission, comme tu dis, est de survivre. Mais en fait, la question se transforme en... Est-ce que tu vas survivre parce que tu veux vivre ? Mmh. Et ouais. c'est ça qui est intéressant dans le film, comme tu dis, et qui fait tout son aspect psychologique.
Mmh. Non, bah, c'est-à-dire qu'on sent au début que c'est une femme un peu crispée. Enfin, il y a une histoire de deuil aussi qui n'a pas été surmontée, parce qu'elle a perdu sa petite fille, je crois, très jeune. Et donc, on sent qu'il y a une douleur quelque part. Et elle, moi, ce que j'ai l'impression dans ce film, c'est qu'elle va devoir lâcher un peu cette crispation, et puis elle va devoir apprendre à adopter une double attitude, qui est d'une part une idée de s'agripper parce qu'il faut continuer à vivre, hein, il faut être efficace, il faut redescendre, il faut prendre des décisions. Et puis quand même, il y a d'autre part cette idée de, il y a des moments où il faut lâcher prise par l'humour, par exemple. À un moment donné, il y a George Clooney qui réapparaît en fantôme et qui fait quelques petites blagues. Bon, et donc pour arriver à une saine distance, en fait, par rapport aux événements, qui va permettre de mieux gérer la chose et de gagner le contrôle. Et donc j'ai l'impression qu'elle apprend, en fait, sur le tas à...
Oui, c'est ça, tout à fait. Je trouvais aussi justement que ce côté s'accrocher et savoir lâcher prise...
Oui.
C'est vraiment sa vie personnelle, les aspects, le deuil qu'elle doit faire et l'envie de vivre qu'elle doit retrouver. Mais c'est transcrit en quelque sorte par ce thème d'astronautes là, qui sont dans l'espace, parce que physiquement, pour survivre, elle doit aussi, à un moment donné, s'accrocher avec ses lanières aux structures qui sont là, les seules structures matérielles dans l'espace. Mais à d'autres moments, elle doit justement se décrocher et sauter, se remettre en mouvement. Enfin, c'est un espace où on doit sans cesse être en mouvement, en fait, pour pouvoir continuer à vivre.
Ouais. Et ce que j'ai trouvé assez fort aussi, c'est la symbolique, enfin la métaphorique qu'il y a là, qui tourne autour de, bah justement, tu disais les lanières qu'il faut défaire. Enfin, il y a toute une symbolique de la naissance.
De la vie et de la renaissance.
Voilà.
Oui.
Donc, il faut couper le cordon ombilical. Il faut
ça se voit déjà sur l'affiche aussi.
Sur l'affiche. Il y a cette scène formidable où elle se retrouve, dans, je ne sais plus si c'est dans le satellite ou dans un vaisseau.
Oui, et on a l'impression
qu'elle est un fœtus.
Voilà, exactement.
Avec le cordon ombilical et la lumière.
Exactement, oui. Et il faut quitter le vaisseau mère, etc., pour gagner la petite navette spatiale qui va le permettre de sauver, etc. Et puis à la toute fin du film, il y a aussi quelque chose où elle est dans l'eau.
Oui, c'est ça.
Et puis en fait, elle sort de l'eau et
elle rampe
sur la terre. Voilà, donc c'est un peu comme
les organismes. Que je dis.
Voilà, c'est ça.
Parce que moi, j'ai pensé à Vénus sortant de l'eau.
Vénus sortant de l'eau, oui, moi j'étais très prosaïque. On jouait les amphibiens, voilà, c'est ça.
Les
premières créatures amphibiennes qui ont quitté l'eau, en fait, pour se redresser. Enfin, histoire de l'humanité en miniature, en fait, quoi. En deux, trois plans.
J'ai l'impression que vous avez beaucoup aimé le film, finalement. C'est vrai que moi, j'ai beaucoup eu de mal à accrocher. Mmh. Pendant toute la première partie du film, je me suis demandé, mais quand est-ce que ça commence ? Alors déjà, il faut savoir que j'y suis allée en prenant ce film pour un autre. C'est-à-dire que moi, il y a très longtemps maintenant, j'ai vu une bande-annonce, Upside Down, et moi, je m'étais dit, tiens, c'est peut-être ça. Enfin bref, j'avais pas du tout fait attention. Moi, j'ai vu Gravity, je me suis dit, ça doit être ça, j'y vais. Et comme je n'avais pas parlé avec qui que ce soit jusque-là, je pouvais pas savoir. Donc déjà, moi, je commence et tout, et je comprends pas. Ouais. Donc faut s'imaginer la scène. Moi, j'attends que le film commence. Mais alors, je suis quand même bon public. Donc en général, même si je m'aperçois que je me suis trompée, ne croyez pas que ça m'arrive tout le temps. Comment je me prends au jeu malgré tout. Et voilà. Et là, ça ne s'est pas passé jusqu'à la moitié du film, c'est-à-dire à peu près jusqu'au moment où, comme tu le disais tout à l'heure, George Clooney réapparaît brièvement via un rêve. En fait, elle se laisse mourir finalement. Elle comprend qu'elle va pas pouvoir rentrer, qu'elle est piégée et qu'il vaut mieux qu'elle dise adieu maintenant. Donc elle éteint tout, y compris ses apports en oxygène, et elle se met à s'endormir finalement, à tomber dans les vapes. Et sur le coup, on a l'impression que George Clooney, qui est un personnage qu'elle a dû laisser partir en amont dans le film, réapparaît, a réussi à se sauver, et la rejoint dans l'endroit où elle est. Et en fait, ce n'est pas le cas. On comprend plus tard que c'est juste un rêve, et via ce rêve, c'est elle-même qui se dit à elle-même, tu peux te battre, sauve-toi, bon, tu as les moyens de le faire. Et donc, effectivement, elle le fait, et c'est à partir de ce moment-là que toute la thématique de je vais mal, en fait, jusque-là je ne vivais pas, je ne voulais pas vivre, eh bien se déploie et qu'on comprend que son moi est plus complexe que ça. Et donc à partir de ce moment-là, j'ai trouvé le film beaucoup plus intéressant parce que avant finalement on comprend pas où elle veut en venir parce que comme vous disiez tout à l'heure, il y a tout ce phénomène lâcher prise, ne pas lâcher prise, s'accrocher, etc. Mais j'ai l'impression que jusqu'à ce moment-là dans le film, elle est menée un peu par les événements. D'abord les événements, par George Clooney qui la sauve, par ses instincts. Mais jusque-là, elle n'a pas cette volonté réelle de s'accrocher.
J'étais dedans, moi, dès le début. Il y a tout de suite un plan. Il y a quand même des images aussi très, très belles de la Terre.
Ah oui, du point de vue esthétique, c'est très beau. Ça, il n'y avait pas de problème. Ou du point de vue de la 3D, ça, c'est même pas à discuter.
Moi, je trouve que relativement rapidement, en fait, le personnage gagne quand même en profondeur parce qu'on sent qu'elle a un espèce de malaise en elle. Enfin, qu'elle a quelque chose qu'elle a fui en s'engageant dans cette mission et donc en quittant la Terre, mais qu'en fait elle n'est pas non plus dans son élément en fait dans l'espace, parce qu'elle est malade physiquement aussi. Enfin, elle a la nausée. Enfin, il y a quelque chose qui ne va pas profondément. Et donc après, petit à petit, effectivement, on découvre un peu plus le personnage et ses problèmes.
Oui, d'ailleurs, la nausée, c'est assez symptomatique du rapport à la maternité. Du rapport au vertige de la vie, qui, comme tu le mentionnes très justement. Ce que je trouvais très intéressant, moi, c'est toute la dualité ou tout le fossé entre, d'un côté, comme vous le dites, ces images qu'on ne voit jamais ou qu'on voit dans des cas très rares, qui sont très particuliers et très très vastes aussi, donc de la planète Terre en plein univers, et en même temps ce fait qu'on nous raccroche toujours à la Terre via les anecdotes qui sont racontées. Voilà, il y a George Clooney qui ne peut pas s'empêcher de raconter des histoires personnelles, biographiques, de faire des blagues, la radio également.
Oui, c'est ça, les voix qui sont captées.
Et donc ce fossé entre le sidéral et le sidérant, l'implicité de la vie, son caractère anecdotique. C'était assez intéressant.
C'est un film qu'il a dédié à sa mère d'ailleurs, si je me souviens bien de la fin. Donc c'est une sorte d'hommage aussi à la vie, à la survie.
Donc un film unique en son genre. Donc on termine avec les frères Coen et leur dernier film, Llewyn Davis. Donc un film dont on a déjà beaucoup entendu parler, qui a eu le grand prix du jury du Festival de Cannes, qui n'est pas tout à fait un biopic. Les réalisateurs insistent pas mal là-dessus, dans le sens où il n'y a pas une trame chronologique qui raconte la vie d'un personnage. Puisque le film se déroule dans l'espace d'une semaine, avec une structure dont on pourra reparler, qui est assez intéressante. Mais c'est quand même inspiré de la vie d'un musicien de folk américain, Dave Van Rome, qui appartient à la scène des années 50 et qui est en fait un des précurseurs de Bob Dylan et de la musique des années 60. Et donc ce musicien qui est un peu tombé dans l'oubli, là les frères Coen le ressuscitent en quelque sorte à travers un personnage, Llewyn Davis, qui donne son nom au film. Donc qu'est-ce que vous avez pensé du film ?
Alors tout d'abord, Inside Llewyn Davis, c'est le titre de l'album que le personnage principal, Llewyn Davis, propose et en lequel il croit pour se faire un nom.
C'est son premier album,
Son premier album en tant que solo, puisque jusque-là, en fait, il était avec un partenaire dont on apprend, même si on le comprend assez vite, qu'il s'est suicidé en se jetant d'un pont. Donc pour le revenir un peu sur le titre, sachant que Llewyn Davis lui-même est un nom, donc il fait... pas référence à un vrai personnage finalement.
C'est un nom biopic, qu'ont compris les frères Coen, mais qui a quand même des résonances un peu avec leur thème, puisqu'en fait c'est un nom gallois.
Voilà, c'est exactement ce que j'allais dire, ce qui est expliqué dans le film.
Qui est très expliqué dans le film parce qu'il y a tout ce thème de l'errance, de l'exode aussi, qui est pris un peu à travers aussi les origines justement de.
De l'errance, de l'exode, ce personnage. Puisque Llewyn Davis est un nom gallois, sachant qu'on apprend que ce personnage avait son père qui est d'origine galloise et une mère italienne.
Et puis il y a aussi un rapport assez fort avec la mère, puisque son père était dans la marine et lui-même périodiquement a dû revenir dans la marine au moment où ses chansons ne marchaient pas très bien. Par contre, le film est très bien filmé, moi j'ai trouvé, et puis la musique est vraiment très belle.
La BO,
personnellement, j'adore la folk, très belle.
Mais là, on sent vraiment l'amour du réalisateur aussi pour cette musique. Ouais, c'est pas la première fois, il y avait déjà... ils avaient déjà tourné un autre film sur la folk.
D'accord, bah même dans Brother, en fait, on voit quand même pas mal de
Your Brother, la
musique qui intervient. Ah d'accord.
Oui, tout à fait, il y avait aussi les gospel, en fait, des choses comme ça.
Et puis là, c'est l'acteur Oscar Isaac qui chante lui-même et qui joue lui-même, qui a une
très belle voix. Ce que j'ai trouvé très bien par rapport aux autres films de ce genre musicaux, c'est que les chansons ne sont pas coupées. Ça a été très les performances du personnage principal.
Ça fait vraiment partie de l'histoire. Ça donne un sens à son histoire personnelle.
On voit ses performances pendant les concerts.
Ils ne sont pas simplement un accompagnement.
Puis l'acteur lui-même dit que en fait ça lui permet un peu dans le film film d'avoir une certaine expressivité à travers ses chansons qu'il n'a pas forcément dans la vie de tous les jours, parce que finalement il parle pas tellement avec les autres de ses problèmes. C'est quand même un personnage de loser à la base, qui rate sa carrière musicale, qui a beau chanter des chansons très belles avec quand même pas mal de talent, voilà, ça marche pas du tout. Il a même nulle part où dormir. Il est obligé de tout le temps demander à ses amis, ses connaissances, s'il peut dormir chez eux le soir. Et quand je dis connaissances, c'est vraiment parfois des connaissances très récentes, des gens qu'il vient de rencontrer et chez qui il s'incruste un peu.
Oui, c'est un film qui est dans le genre film biographique sur un loser, entre guillemets, mais ça m'a un peu rappelé quand même le Big Lebowski, dans la filmographie des frères Coen, peut-être un peu Serious Man, qui est aussi un peu dans le genre. Bah, c'est-à-dire que...
C'est moins
délirant, quoi.
Par
beaucoup de côtés, ça s'en distingue. Mais bon, on retrouve quand même aussi John Goodman, qui avait dans le Big Lebowski, qui joue un vieux tyran obèse, réputé. Vraiment horrible. Donc il y a des moments très très comiques quand même, hein, comiques de répétition avec un chat qui garde et puis qui s'échappe toujours et qui faut rattraper, etc.
Oui, et là qui rejoint d'ailleurs le thème de Laurence Fantaise, puisqu'on s'aperçoit, d'ailleurs ce que j'ai trouvé très bien annoncé, parce que parfois ce genre de petites blagues, c'est pas toujours génial, mais là il s'appelle Ulysse.
Ouais,
donc
oui,
une référence quand même assez transparente.
Qu'on avait déjà dans Brother, la référence à l'Odyssée.
C'est ce qu'on disait, le fait qu'il est obligé de dormir chaque soir pratiquement chez de nouvelles personnes. Il y a aussi cette succession de scènes formidables où d'abord il essaie de rejoindre New York à Chicago, il est dans une voiture en covoiturage finalement avec l'homme répugnant dont tu parlais tout à l'heure et un jeune homme
qui est complètement muet,
baptisé Johnny Five, et qui se retrouve à devoir s'arrêter parce que le conducteur est fatigué. Il est arrêté en fait parce qu'on le soupçonne d'avoir trop bu, donc ils peuvent plus vraiment continuer de s'arrêter, donc lui il reprend son chemin, hein, le personnage principal. Ensuite il se retrouve à Chicago dans une espèce d'endroit où il prend un café, la serveuse doit quitter son service donc elle lui demande de l'argent et il se remet à partir parce qu'il voit ça comme finalement une façon de le mettre à la porte. Et ensuite une nouvelle fois il se retrouve dans une voiture où carrément il a l'autostop en fait, et le conducteur lui donne les clés pour conduire pendant que lui-même dort parce qu'il est trop fatigué, et il est obligé encore une fois de s'arrêter et puis il va reprendre son chemin. Donc en fait on a cette impression qu'il peut jamais vraiment faire de pause, faut toujours qu'il soit en route, sur la route.
Puis ça participe
et
en fait
en même temps,
de
il avance pas enfin
c'est et en même temps il voilà c'est en même temps il avance pas
enfin, mais ça participe de la structure du film en boucle, en fait
c'est l'errance à d'ouverture qui arrive à la fin, et puis lui c'est un échec continu répétitif. Même le chat il arrête pas de le croiser, enfin tout se répète,
il fait faux pas sur faux pas quand même aussi, donc
c'est ça. Mais à chaque fois qu'un nouveau jour débute en fait on a ce réveil sur le canapé de quelqu'un d'autre, et c'est ça qui structure le film en fait, c'est vraiment à chaque fois une éternelle répétition.
Et puis aussi le fait quand même, on peut le mentionner, que ce soit enfermé dans un flashback, puisque la scène du début on se rend pas vraiment compte, mais on s'aperçoit à la fin que c'est une scène qui
s'inscrit chronologiquement à la fin en fait.
En fait le film s'ouvre sur une scène qu'on retrouve à la fin, et cette scène qui n'est pas tout à fait terminée au début se clôt à la fin. Personnellement je l'ai interprété comme une manière de donner une conclusion au film, c'est-à-dire que pendant tout le film on a affaire à un personnage qui pour moi n'est ni un héros ni un anti-héros. Il est un personnage un peu ordinaire qui fait comme il peut, une forme de loser mais qui se débrouille, et finalement notamment il a affaire à des personnages parfois qu'il connaît pas ou qu'il connaît peu, mais à beaucoup de gens finalement qu'il connaît et qui le connaissent, et qui en tant que tel se permettent de lui dire des choses qui lui font mal mais en même temps le reprennent toujours, que ce soit sa sœur, que ce soit la femme qui est une amie en fait qu'il met enceinte, que ce soit
les
ce
parents
tenancier
aussi de son
de bar, voilà les
ceux dont on comprend que en fait c'est les parents de son partenaire mort, et avec lesquels il a une scène de dispute qui est très drôle mais quand même assez terrible,
et en fait
le reprennent toujours
voilà
à la
pour
fin,
moi c'est toujours dual. Avant de quitter New York pour Chicago il se brouille avec un certain nombre de personnes, et quand il en revient il arrive à se réconcilier avec elle, et on a l'impression que c'est un mode de fonctionnement. Et pour moi à la fin, lorsqu'il se fait tabasser par cet homme dont il a hué la femme en concert, pour moi je l'ai compris comme tel, c'est une manière aussi de dire et mec, c'est pas parce que t'es malheureux et que tu peux te permettre d'emmerder tout le monde que ça va marcher tout le temps.
C'est vrai que d'une manière générale moi j'ai trouvé quand même assez sympathique, parce que certes il fait beaucoup d'erreurs et c'est quand même souvent de sa faute, mais malgré tout ce dernier moment où justement il est très cruel avec cette femme dont on voit que c'est une femme en fait qui est assez âgée et qui n'a pas du tout l'habitude d'être en concert, qui vient de monter donc à New York, et il est il est un peu ivre, et puis, je crois. Et puis surtout,
oui, il a des circonstances atténuantes.
Il a des circonstances atténuantes, mais enfin, il est quand même horrible avec elle. Il lui gâche sa soirée. Et c'est le seul moment du film que j'ai trouvé vraiment...
Dur,
oui, parce que c'est quand même, dans l'ensemble, un personnage qui voilà, fait des erreurs, mais qui a une certaine, aussi un certain talent qui rattrape un peu les choses. Et puis même, il n'est pas antipathique non plus. Il est quand même,
non, c'est ce que je disais.
On peut l'imaginer dans une autre situation. On pourrait très bien l'imaginer comme quelqu'un de même assez sympathique. Mais
en fait, il est ordinaire. Il est pas si ordinaire
que ça, quand même. Parce que,
il est talentueux, mais le problème, pour moi, la question que pose le film aussi, c'est pourquoi est-ce qu'il n'a pas de succès? Parce que sa musique est vraiment superbe. C'est un artiste qui arrive à créer une certaine ambiance quand il chante et tout. Et en tant que spectateur, on tire un certain plaisir à écouter sa musique.
On se
demande pourquoi il n'y a aucune réaction du public. Et il arrive à créer, j'ai l'impression, un lien, ni avec les membres de sa famille, donc son père notamment, qui ne réagit pas non plus quand il veut lui rendre visite, ni avec ses amis, sa relation avec Carey Mulligan, tout ça, ni avec son public. Et on peut se demander pourquoi.
Comme le dit à un moment donné, le personnage là, joué par F. Murray Abraham, j'ai oublié le nom, Grossman, le grand producteur de musique, il lui joue un petit morceau et on a l'impression qu'il est touché, en fait, qu'il écoute, etc. C'est une belle chanson qui raconte l'histoire d'une épouse du roi Henri VIII d'Angleterre, une balade, et il
mais
lui dit bon, il n'y a pas beaucoup d'argent là-dedans, il n'y a pas de potentiel
économique. Dès qu'il commence à chanter, je trouve qu'on se rend compte que c'est quand même très maladroit de lui chanter cette chanson spécialement.
Mais c'est ça, mais en fait son problème aussi, c'est qu'il est tellement intègre qu'il n'est pas prêt
jouer. Ça fait partie aussi un peu de sa pureté en tant qu'artiste.
Voilà, parce qu'on lui propose des choses à plusieurs reprises, tu peux faire un trio, tu peux faire ceci, cela, et puis il dit non, voilà ce que je veux faire.
Il le fait quand même de temps en temps quand il a besoin d'argent.
Voilà, mais c'est le dernier recours en quelque sorte. Et puis il préfère à la limite se trimballer. Il y a cette séquence où il est avec les cartons de disques non vendus.
Ah oui, ça c'est trop drôle. Et voilà. Quand il veut les caser sous la table de son ami, où il y a en fait le carton d'un vendu de son ami.
c'est marrant.
Oui, mais il y a toute une réflexion sur ce que c'est qu'être musicien.
Ce que c'est qu'être un artiste.
Mais surtout,
être
un art où il y a beaucoup d'artistes extrêmement anonymes en fait. Le film se termine par Bob Dylan quand même, qui interprète une chanson. Et du coup, ça donne l'impression que, je sais pas, il y a tous ces artistes qui restent
dans l'ombre
jusqu'à cette grande figure.
Le film est aussi une longue suite de confrontations entre différents arts et entre différents types de musique, puisque d'emblée on a la référence à l'opéra lorsque, se faisant tabasser par cet homme là en ouverture du film, il dit mais qu'est-ce que tu crois, c'est un bar ici, c'est pas un opéra. Ensuite il y a la référence
au jazz,
rock and roll avec Presley, et il y a également la référence au théâtre, puisque justement ces deux hommes dans le covoiturage sont manifestement des comédiens aussi. Donc on voit il y a toute une confrontation entre différents arts et la façon dont ces arts peuvent engranger de l'argent, du succès, etc. Et il est clair que la folk et sa folk à lui ne marche pas.
Et c'est peut-être aussi une particularité justement de la folk qui fait que lui, il reprend beaucoup de vieilles chansons quand même. C'est un peu ce qu'il fait dans le film en tout cas, et du coup c'est pas forcément non plus un art qui se veut très très novateur comme musique, forcément, qui essaye d'être, certes ça a une certaine esthétique vraiment de l'épuration un peu, c'est des chansons qui peuvent être très belles sans qu'il y ait forcément toutes les 12 notes de la gamme, comme le fait remarquer celui qui fait mais qui malgré tout sont belles, justement c'est des chansons qui sont belles justement parce qu'elles ont ce côté comme ça très pur, touchant, et le message bien sûr peut être intéressant, que ce soit un message d'ailleurs pas forcément engagé, mais même les paroles d'une manière générale sont quand même importantes,
existentielles parfois.
C'est vrai que c'est pas lui en tout cas il est pas très dynamique, il vit dans son petit monde, il fait ses chansons et c'est quand même assez statique d'une certaine manière, mais ça reste quand même très beau, donc on pourrait penser
mais en même temps la folk c'est pour moi typiquement la chanson populaire américaine, c'est un côté très très personnel, là où le rock and roll, le jazz ont bien sûr leur histoire et leur originalité, ce sont des musiques ou des types de musiques qui sont très très mondiaux finalement, qui peuvent facilement mener, comme on dit, à l'industrie, à l'argent, à des succès planétaires, alors que la folk pour moi c'est un peu le cow-boy américain, c'est cette errance sur les routes, cette forme de nostalgie campagnarde.
C'est peut-être davantage vrai pour cette époque qu'après, avec
que
Bob Dylan, les années 60, prendra une dimension
pour l'époque du film, en tout cas.
Ouais.
Mais en tout cas, c'est un très beau film.
Oui.
Quelque chose de très intéressant aussi, c'est la mention de l'avortement. le fait qu'il est, si on a bien compris, il a engrossé un certain nombre de femmes qu'il a dû, pour lesquelles il a dû payer voilà, l'avortement. Et en fait, il apprend sur le tard qu'il a un fils de bientôt 2 ans. Et là aussi, c'est un échec. On le voit un moment sur la route et il se demande s'il
va prendre la sortie,
qui mène à la ville où il sait qu'il habite. Ouais. Et il le fait pas.
Mais ça donne aussi d'ailleurs un très beau rôle à Carey Mulligan quand même, parce que c'est des rôles dans lesquels on la voit pas jouer très souvent. Et là, elle est très agressive, très remontée contre lui. Et c'est des séquences qui sont vraiment assez drôles.
Ouais.
Donc, enfin voilà, moi, c'est un film en tout cas que j'ai pas trouvé aussi déprimant et sinistre que ce qu'on avait dit. Quand même, un assez beau film.
C'est une tranche de vie. Personnellement, je trouve que c'est un beau film. Après, pour moi, c'est pas un chef-d'œuvre. Mais à mon avis, ça n'en a pas la prétention.
Non, je pense pas.
C'est un film à sa hauteur, en fait.
Oui, et puis c'est un film assez intimiste quand même aussi. Donc, c'est pas.
Non, et puis c'est très beau esthétiquement aussi, la photographie, toute cette côté hivernale. Enfin, moi, j'ai bien aimé aussi.
Voilà, voilà. Donc, peut-être maintenant, on peut faire quelques petites recommandations pour terminer. D'abord, des films que vous auriez vus cette semaine qui vous auraient plu, qui sont encore en salle.
Oui, alors moi, ce que j'ai vu récemment, c'est le transpersonnage.
Snowpiercer.
Voilà, Snowpiercer, comme il s'appelle en anglais, du réalisateur coréen Bong Joon-ho, adapté d'une bande dessinée. Hein, et donc, c'est une sorte de, enfin pour le dire de façon savante, dystopie, un post-apocalyptique, en fait. Hein, donc, le contraire de l'utopie, une vision d'horreur, en fait, où après une nouvelle ère glaciaire, enfin dans une nouvelle ère glaciaire, les seuls êtres humains à avoir survécu sont dans un train, en fait. Hein, qui ne s'arrête jamais, qui est une sorte de microcosme, reflet en fait de la société, des différentes strates sociales, et où cette prétendue nécessité en fait de devoir faire régner l'ordre, parce que sinon ça va être le chaos et on va tous mourir, justifie en fait une répression très très brutale hein, de la populace en fait, enfin de ceux qui sont tout en bas de l'échelle sociale, par les happy few qui sont en tête de train, qui boivent leur thé dans des jardins où il existe encore de la terre, où il existe des mandarines, tout ce que les petits enfants qui sont nés dans le train ne connaissent pas. Et voilà, le thème, donc, c'est celui de la révolte et de la dictature, en fait. Hein, révolte contre la dictature pour arriver à la liberté, malgré les dangers aussi que ça représente, hein, parce que ça veut dire on sort du train, on sort dans la neige, on sait pas ce qui va arriver. Donc, c'est quelque chose de très métaphorique, en fait, hein, sur le prix à payer, les mécanismes de la répression avec tout ce qui caractérise hein, la dictature, la sacralisation du chef de train qu'on connaît pas, qu'on a jamais vu, etc. Voilà, donc, c'est un film qui mérite vraiment d'être vu.
Juste une question, quel est l'intérêt de faire ça dans un train qui bouge tout le temps, enfin c'est juste l'image de la boucle, enfin du fait d'aller
c'est métaphorique sur
du point de vue métaphorique, on a quand même, enfin bon, ce à quoi j'ai pensé, c'est il y a une longue tradition qui est la nef en fait, hein, c'est-à-dire la nef de l'État ou de la société, où il y a le capitaine hein, qui est le président, comme on dirait aujourd'hui, à l'époque le roi qui dirige le bateau, etc. Donc ça, c'est une longue tradition enfin qui existe dans notre culture. Après, dans le film,
bah, ça peut être aussi peut-être, enfin moi j'y pense juste comme ça, j'ai pas vu le film, mais aussi l'idée que donc ce train va sur des rails comme ça, il ne s'arrête jamais, il a un chemin déterminé.
Tout à fait,
ça.
Exactement.
Ça peut être une métaphore tout simplement de la vie, voilà, les gens vivent.
Oui,
la fatalité
la structure du c'est train ça. Aussi.
Quelque chose
oui,
de.
La verticalité, après, les gens à l'intérieur du train peuvent contrôler un peu leur propre vie. Disons, interagir les uns avec les autres, etc. Mais ils sont embarqués tous sur le train de la vie.
Il y a le côté prison, quoi.
Si on est embarqué,
C'est un train qui fait le tour du monde exactement en 365 jours. Hein, donc il a une temporalité qui lui est propre d'une certaine manière. Et puis on compte les années, en fait, depuis le départ du train. Donc 18e fois qu'on passe là, 18e année, etc. Et donc il y a le côté, effectivement, de fatalité, déterminisme. Ça va être tout le temps la même chose. Hein, on va pas pouvoir y échapper. Voilà, donc il y a ça aussi dans la.
On tourne en rond, quoi, littéralement.
Ouais, ouais, ouais.
Alors, personnellement, j'ai vu deux films que j'ai beaucoup aimés. Donc, Au bonheur des ogres, l'adaptation du livre de Daniel Pennac, donc par rapport à la célèbre série des Malocènes. Et également, l'extravagant voyage du jeune et prodigieux T.S. Spivet, qui est également l'adaptation d'un livre par Jeunet. Donc, ce sont deux films que je recommande. On peut vraiment passer des bons moments, se détendre, s'amuser en famille, particulièrement, je pense. Voilà, donc après, je ne vais pas rentrer dans les détails plus que ça, j'invite plutôt chacun à aller les voir, mais en tout cas, ce sont des, à mon sens, des bons films. Voilà.
Alors peut-être maintenant sur les films qui vont bientôt sortir, on peut notamment mentionner qu'il y a un nouveau film de Cannes qui sort la semaine prochaine, le Polanski. C'est un film de Cannes, non ? Ouais, j'ai un doute tout d'un coup en fait.
Je ne sais pas.
Si, je crois qu'il a été présenté en compétition.
Oui, il me semble. Enfin bon, bref. En tout cas, il y a le film, le dernier film de Roman Polanski, La Vénus à la fourrure, qui sort la semaine prochaine. Et apparemment, selon les critiques, ce serait un bon cru. Donc on a vu juste la bande-annonce pour l'instant, mais on l'attend avec une certaine impatience. Et puis.
Ouais, moi, il y avait un film qui est déjà en salle en fait, que je voulais vous conseiller. Ça s'appelle Mes séances de lutte de Jacques Doillon. Enfin, c'est un film assez rare, je pense qu'on n'en a pas trop entendu parler. Et c'est pour ça que je tiens à vous le recommander, c'est parce que c'est assez spécial. Enfin, c'est dur à décrire, ça rentre vraiment dans aucune catégorie de film prédéfini. C'est juste un homme et une femme qui n'arrivent pas à s'avouer qu'ils s'aiment et qui se livrent du coup à un espèce de combat amoureux à la fois verbal et physique. Et combat vraiment littéralement, parce que c'est donc ça s'appelle Mes séances de lutte. Il se livre à des séances de lutte physique où il se porte des coups. Et c'est vraiment c'est assez intriguant, assez fascinant. Sarah Forestier aussi qui joue très très bien dans ce film. Et voilà, donc je peux que vous recommander cette espèce d'ovni un peu. Voilà.
Très bien. Bon, bah, peut-être pour terminer, juste un dernier film que moi j'attends un peu aussi. C'est Les garçons et Guillaume à table de Guillaume Gallienne. Vous avez peut-être déjà entendu parler. Qui est...
Oui, non, ça, je rigole parce que ça promet d'être amusant.
D'accord, oui, oui, bah, c'est une comédie qui est annoncée, qui est adaptée de son one-man show, qui est inspiré lui-même un peu de sa vie, si j'ai bien compris. Donc, sur ses relations avec sa mère castratrice et sur lui-même ses propres, interrogations existentielles et sexuelles, notamment. Donc, voilà, un programme intéressant en perspective.
J'aimerais juste, à côté des sorties ciné, vous recommander la rétrospective Otto Preminger, qui va commencer à l'Institut Lumière ce mercredi 13 novembre et qui va durer jusqu'au 22 décembre. Donc, une rétrospective assez longue dédiée à ce cinéaste d'origine autrichienne qui était exilé à partir de 1935 aux États-Unis et où Hollywood l'a accueilli à bras ouverts. Et donc c'est l'occasion de revoir quelques-uns de ses classiques, enfin Laura par exemple, un classique du film noir, ou encore Bonjour Tristesse d'après le roman de Françoise Sagan avec Jean Seberg dans le rôle principal. Donc voilà, beaucoup de beaux films je pense à découvrir ou revoir et quelques séances spéciales, je me suis notée. La soirée d'ouverture, donc ce mercredi 13 novembre à l'Institut Lumière avec Laura, présentée par Fabrice Calzettoni. Et le mardi 19 novembre à 19h30, une conférence sur le mystérieux docteur Corvo de Michel Simon. Donc voilà, donc une présentation du film suivie de la projection.
Très bien. Bon bah donc c'est un beau programme en perspective. Mmh. On pourra en reparler dans une prochaine émission. Donc on vous dit à bientôt. This is the end. Hold your breath and count to ten. Feel the earth move.